Hervé Gattegno, bonjour.
Bonjour.
Dans la presse ce matin, la France est le pays d'Europe le plus attractif pour les capitaux étrangers, ce que vient de rappeler à l'instant Claude Perdriel.
Oui, c'est surprenant et c'est Ouest France qui met en exergue ce chiffre. 1815, c'est la date de la bataille de Waterloo pour les érudits, mais c'est surtout aujourd'hui le nombre de décisions d'investissement étrangers en France prises en 2023. Voilà qui classe notre pays au premier rang européen pour la quatrième année consécutive selon l'agence publique Business France. Les capitaux investis en France viennent principalement des États-Unis, ça représente 305 projets et 17 000 emplois à la clé, ainsi que l'Allemagne et le Royaume-Uni. D'après Business France, ces investissements devraient permettre de créer ou de maintenir près de 60 000 emplois dans les 3 ans. À noter que, selon Ouest France, les capitaux investis en France créent moins d'emplois que chez nos voisins. Ça mérite donc qu'on s'en réjouisse, mais pas trop, parce que, vous le savez, en France, une bonne nouvelle ne l'est jamais tout à fait.
Mais quand même, réjouissons-nous. Dans les gros titres de ce matin, le lancement de la campagne du Rassemblement national pour les élections européennes, avec le meeting de Jordan Bardella à Marseille.
Le jeune président du RN sait qu'il joue gros dans cette campagne, écrit Le Figaro, qui relève que Jordan Bardella et Marine Le Pen ont affiché leur unité contre Macron, ce qui semble dire que la question de leur division serait déjà d'actualité. Plus cruel encore, l'opinion voit derrière le phénomène Bardella la montée du populisme ultra-bright, et l'éditorialiste du quotidien a la dent dure de fait contre le Rassemblement national avec qui, écrit-il, le scénario d'une alternance en douceur est une illusion, une impasse économique et un piège stratégique. Peut-on prôner le sérieux budgétaire et promettre la retraite à 60 ans, défendre les prix planchers et y voir des trappes à pauvreté ? Le populisme permet, paraît-il, toutes les inepties. C'est à ça qu'on le reconnaît.
Fermez les guillemets. L'événement du jour, c'est l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution qui sera votée par le Congrès cet après-midi.
Il n'y a plus de suspense depuis le vote des sénateurs mercredi, mais la portée au moins symbolique de cette révision est soulignée par toute la presse. L'IVG entre dans la Constitution et dans l'histoire, titre Le Parisien. Le Figaro considère que cette révision sociétale peut paraître mineure par rapport au grand dessein institutionnel d'Emmanuel Macron, mais La Croix y voit une étape importante pour passer d'une loi de compromis à une liberté garantie. Il y a eu 234 000 IVG en 2022 en France, record historique. L'éditorialiste de La Croix écrit « C'est la plus mauvaise des réponses, car elle porte atteinte à la vie à son commencement. Mais en matière de vie à protéger, il faut aussi parler de celle de la femme. »
Sur le même sujet, Libération titre en une « IVG, liberté à jamais » et parle d'une victoire féministe et transpartisane.
Le quotidien livre un récit détaillé de cette bataille politique lancée en 2017 par des sénatrices communistes, puis par la députée de la France insoumise Mathilde Panot en 2022, après la décision de la Cour suprême américaine restreignant le droit à l'avortement. Un combat de femmes, dit aussi dans Libération la ministre Aurore Berger, qui concède qu'il y a bien sûr des hommes qui accompagnent. Le fait est qu'il a aussi fallu, rappelons-le, une décision du président de la République, un gros travail du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et le vote des sénateurs LR et centristes, qui sont en majorité des hommes. Au-delà des querelles de genre, La Provence souligne à juste titre que le vote du jour ne saurait dissimuler la difficulté grandissante pour accéder à l'IVG dans notre pays et le manque de moyens, et aussi la désinformation entretenue sur les réseaux sociaux à propos de l'avortement. 130 centres IVG aurait fermé en 15 ans en France, selon le planning familial.
Le Parisien aujourd'hui en France se préoccupe, lui, de la condition des jeunes femmes dans le système scolaire en lançant cette alerte. Les filles renoncent aux sciences.
Oui, et c'est à croire que Marie Curie n'est plus un modèle à lire cette enquête du Parisien. Les jeunes filles renoncent massivement aux carrières scientifiques. Si à peine 29% d'étudiants ingénieurs sont des étudiantes, c'est que notre système scolaire décourage les filles de choisir les filières scientifiques au lycée. Éléonore a abandonné sa spécialité mathématique en terminale. Elle témoigne, elle avait 13 sur 20 de moyenne. Son prof principal lui a fait peur. Il m'a dit qu'il fallait être super fort pour suivre. Pourtant, des garçons qui n'étaient pas meilleurs le font aujourd'hui. Elle le regrette. On dit aussi aux filles que le milieu leur serait hostile ou que les métiers d'ingénieur ne sont pas des métiers de femmes. Conséquence, premièrement, on manque cruellement d'ingénieurs en France. Deuxièmement, les femmes s'éloignent ainsi de carrières bien rémunérées rémunérés, ce qui perpétue l'inégalité salariale avec les hommes. Comment dire en mathématiques, c'est QFD.
Et pourtant, dans l'industrie, dans l'informatique, dans les sciences, de plus en plus, on communique sur le recrutement de jeunes filles très tôt après la seconde dans les études scientifiques. Donc, mesdemoiselles, allez-y. Et encore une femme à l'honneur pour finir, Monica Lewinsky, l'ex-stagiaire de la Maison-Blanche, dont l'idylle avec Bill Clinton fit scandale en 98. Elle n'était pas totalement intéressée à l'époque par les études scientifiques. Elle est de retour.
C'est le site de Courrier International qui le raconte. Monica Lewinsky est devenue une icône, désormais égérie de la marque de prêt-à-porter américaine Reformation. Elle pose en femme d'affaires, en robe ou en tailleur, amincie et déterminée, dans le cadre d'une campagne intitulée « Sortez votre ». Le but est d'encourager la participation à l'élection présidentielle américaine. Au-delà, le Times de Londres voit en Monica Lewinsky la sainte patronne des femmes dont la vie a été ruinée par des hommes de pouvoir. Le site du magazine Elle, qui publie la série de photos, regardez-là, ça vaut le détour, raconte que Monica Lewinsky, désormais cinquantenaire, a maintes fois tenté de se réinventer, une ligne de sac à main, des émissions de télé-réalité, la dépression, le silence forcé pendant des années. USA Today voit en elle la voie de la lutte contre le harcèlement. Personne ne dit si Monica Lewinsky est restée démocrate après le scandale Clinton, mais quelque chose me dit qu'elle ne votera pas pour Donald Trump.
Et si vous voulez vous souvenir de cette affaire Monica Lewinsky, il y a une série extraordinaire sur Netflix, ça s'appelle American Crime History, et puis il y a des thématiques, et la quatrième saison de cette série raconte toute l'affaire Monica Lewinsky, comédien absolument formidable.
C'est remarquable.
Et même si on connaît l'histoire, le suspense reste insoutenable. Merci Hervé Gattegno, à demain pour les journaux. Dans un instant, notre esprit libre du lundi, le philosophe.